D'abord, c'est un livre qui a une densité extraordinaire. En fait, il a vraiment fait une somme d'accumulation de connaissances et de données qui est pour moi un vrai travail universitaire. Et heureusement qu'il a été publié, d'ailleurs. C'est vraiment une vraie réussite de ce point de vue. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la profondeur et l'ancienneté de l'action des fondations américaines sur l'Afrique au niveau de l'enseignement supérieur. Et surtout le fait que ces fondations ont travaillé de façon collaborative, on va dire presque partenariale, pour avoir suffisamment de puissance pour finalement changer un peu la donne, modifier en fait le modèle de l'enseignement supérieur en Afrique, avec l'idée qu'en modifiant l'enseignement supérieur, ça retomberait sur tout le reste du système d'enseignement, ce qui n'est pas totalement le cas et ce n'est pas totalement vrai. Et c'est vrai que ça a montré en fait une coloration de ce système d'enseignement de type plutôt anglo-américain que d'autres modèles. Et ce qui d'ailleurs est impressionnant dans ce travail, c'est de montrer combien l'influence américaine, on va dire anglo-américaine pour faire simple, je ne dis pas anglo-saxonne, je dis bien anglo-américaine, s'est portée en fait sur les pays qui sont de langue anglophone, en écartant quasiment, mais je pense que c'est assez naturel, la zone d'influence francophone ou française, ou on va dire francophone parce qu'il y a la Belgique aussi dans la boucle, pour essayer en fait de monter un écosystème plutôt de pensée, on va dire, on peut dire libérale américaine, dans une contrée où tout était à faire, où il fallait faire décoller ce continent, et donc avec le sentiment que c'était la bonne procédure pour permettre cette émergence et ce take-off. On pourra discuter un peu plus tard sur la réalité de cette et l'efficacité de cette stratégie, parce que bon, après près de 100 ans, puisque ça a démarré dans les années 20, après presque 100 ans d'exercice de cet accompagnement des grandes fondations américaines sur le continent anglophone africain, on s'est rendu compte que finalement il y a encore beaucoup de carences, beaucoup de difficultés à faire émerger une classe supérieure et une élite, on va dire, supérieure pour pouvoir prendre en charge la gouvernance de ces pays. Et d'ailleurs, ce qui est très impressionnant, c'est la masse financière qui a été injectée. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut noter. C'est pas à la francophone quelques interventions par-ci par-là, alors que nos pays ont plutôt une tradition en Europe d'une coopération plutôt que d'une intervention philanthropique. Et ce sont deux modèles finalement assez concurrentiels. Et on voit bien que ce poids des fondations américaines finalement a pu peser, voire concurrencer les processus de coopération bilatéraux ou multilatéraux entre pays sur ces territoires. Alors, ce qui est certain, c'est que si on regarde un peu l'évolution de la philanthropie globale, on a eu pendant, on va dire, après le New Deal de Roosevelt, Roosevelt en fait a demandé une imposition à 85% des revenus des contribuables américains qui payaient plus d'un million de dollars, qui avaient plus d'un million de dollars de revenus annuels. Ce qui, à Londres d'aujourd'hui, avec les ajustements de valeur, on serait sur un revenu de 10 à 15 millions de dollars par an. Au-dessus de cette somme, on prélevait 85% d'impôts, avec un système de redistribution vers les classes moyennes, puis les classes inférieures, mais surtout les classes moyennes américaines, qui d'ailleurs, après-guerre, ont vécu un véritable âge d'or d'une catégorie qui, quand on vivait en Europe, on les regardait vivre par le cinéma, on était impressionnés par leur mode de vie, alors que nous, on était encore quelque part à avoir des toilettes sur les paliers, quoi. Donc ça a été un choix lié à la crise, lié à tout ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres et l'après-guerre. Et du coup, la philanthropie des très très grandes fortunes s'est calmée, en tout cas tassée. Les Rockefeller, Vanderbilt, les Ford, les Carnegie, c'était la période, disons, fin du 19e siècle, début du 20e, avec les fortunes colossales qui se sont constituées sur la sidérurgie, la chimie, le rail, le pétrole, etc. Donc c'est cette très grande philanthropie aujourd'hui qu'on retrouve, on va dire depuis les années 90, du fait à nouveau d'une libéralisation, notamment des systèmes bancaires, qui vont permettre à des capitaines d'industrie, des financiers, mais aussi des entrepreneurs, de reconstituer des fortunes aussi considérables que l'époque de la première révolution industrielle. Enfin, c'était la deuxième révolution industrielle, sidérurgie, chimie, pétrole, etc. Et là, ça repose sur quoi? Sur les nouvelles technologies, sur l'Internet, sur l'informatique, enfin, toutes ces nouvelles formes de construction finalement de patrimoine. Et même cause, même effet, j'ai fait fortune, je m'appelle Bill Gates, je dispose d'un patrimoine de 100 milliards de, enfin, ou quasiment de 100 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il adviendra de moi après ce passage? On se souviendra plus de moi en tant que président d'une fondation de cette puissance que comme actionnaire de Microsoft. D'ailleurs, au moment où cette fondation va prendre son envol, Bill Gates est poursuivi et Microsoft est poursuivi pour entente, monopole, cartel, etc. Il crée sa fondation, il se libère de ce carcan, il redevient un bon samaritain. Warren Buffett va le suivre, et puis toute une série de milliardaires qui vont faire la même chose. Zuckerberg avec sa dotation pour l'éducation, mais très récemment, Michael Bloomberg décide de donner 1,4 milliard de dollars pour lutter contre l'épidémie des opioïdes, ce qui est quand même, on voit bien, des sommes tout à fait importantes. Et donc on a bien cette espèce d'effet miroir. Avant Première Guerre mondiale, grande philanthropie, un silence, ou en tout cas une plus grande modestie, et depuis 20 ans, à nouveau, une flambée des inégalités, des fortunes colossales qui sont constituées. On va dire que 100 milliardaires, peut-être même moins, mais 100 milliardaires, aujourd'hui se partagent le même patrimoine que 3,5 milliards d'habitants sur Terre. Donc on est dans un paradigme qui est juste, enfin, bluffant, quoi. Enfin, donc on comprend qu'il y a à nouveau ces grandes stratégies philanthropiques. En Chine, j'ai fait un voyage en Chine en novembre, les Jack Ma, patron de Alibaba, et il fait la même chose que Zuckerberg ou Bill Gates, à sa dimension en Chine. Un pays qui était de tradition, on va dire, étatique, voire totalitaire, lâche la bride pour que des riches puissent s'enrichir, des milliardaires s'enrichir. Qu'est-ce qu'ils font au bout de leur processus? Ils créent des fondations pour être quelque part anoblis, immortalisés par leur fondation plutôt que par leur activité économique. Il y a une vraie tradition qui est probablement finalement liée à la quête de reconnaissance, d'immortalité. Notre finitude pousse un certain nombre de ces grands tycoons industriels qui ont fait fortune à s'interroger sur l'après. Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, de l'époque où ils étaient chefs d'entreprise, ils étaient mais honnis. Je crois que Carnegie, on lui interdisait de financer des bibliothèques. Je crois que, je ne sais pas combien d'États ou combien de villes américaines refusaient ces financements. Je crois que c'était indiqué dans le monde diplomatique il y a quelques jours, simplement parce que c'était des gens horribles. C'était des capitaines d'industrie, mais c'était des capitalistes totalement, honnis par la population. Après, les choses se calment. Aujourd'hui, quand on parle de Rockefeller, on pense à sa fondation. À Carnegie, on pense à sa fondation. Et on en pense de façon extrêmement positive. Rockefeller a fait, par exemple, grâce à un grand penseur et enseignant qui s'appelle Peter Drucker, qui était enseignant à Harvard, il l'a accompagné pour que la fondation Rockefeller accompagne elle-même la révolution verte en Inde. Donc quand on parle de la révolution verte en Inde, c'est un projet étatique, c'est l'Inde qui le porte, mais c'est la fondation Rockefeller qui l'a financé. Par certains aspects, la sécurité sociale française est inspirée des travaux de la fondation Ford, qui va conseiller, accompagner un certain nombre de gouvernants français pour les pousser à mettre en place des systèmes de sécurité sociale un peu plus égalitaires ou équitables. Donc ces fondations, du coup, colorent différemment le visage de ces grands entrepreneurs et, quelque part, les envoient vers la postérité très positivement. Le Giving Pledge américain concerne 400 milliardaires dans le monde. Alors il n'y a pas de Français. Où les Français participent à très faible dimension, pour une raison là qui est juridique et presque de l'ordre du statutaire, c'est qu'en France, on ne peut pas déshériter ses héritiers. Alors qu'en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, on peut le faire. Si vous voulez donner 30 milliards comme la Fondation Gates, bah, vous n'avez pas d'héritier qui vous le conteste. En France, c'est un peu plus compliqué. Regardez ce qui s'est passé dans l'actualité il y a quelques temps. Donc du coup, il y a des bons temps considérables qui peuvent changer le monde à la dimension de ce que moi j'appelle le despote philanthropique éclairé, simplement parce que j'ai mis 30 milliards dans une fondation, j'ai envie d'intervenir sur telle thématique. C'est mon choix. C'est mon choix de défendre à ma façon l'intérêt général. Alors quand je m'attaque à la rougeole, il y a 2 millions de morts de la rougeole chaque année, chez l'enfant, dans le monde, je m'attaque à ce sujet, je tombe à 200 000. Formidable, j'ai lutté contre un fléau. Maintenant, j'ai décidé de m'attaquer à la polio et je veux éradiquer la polio dans le monde. Il ne reste plus que 1% de la population à vacciner. Dans le monde, ces gens se trouvent au Yémen et au Pakistan. Pour aller les vacciner, pour éradiquer la polio, ça va coûter une fortune. Il serait peut-être plus intelligent d'injecter cet argent dans d'autres domaines, de l'aide sociale, de l'aide médicale, etc. Mais le choix de Gates, c'est de dire, il y a un homme qui a éradiqué la polio dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité, qu'on ne pourra jamais lui retirer, c'est la Fondation Gates. Et ça, ça vaut pour lui, pour sa préoccupation au-delà de l'intérêt général, qui est quand même, il y a quand même de l'intérêt général, mais ça vaut beaucoup plus que un choix démocratique de qu'est-ce qu'on doit financer et qui dit l'intérêt général. La question de l'inégalité d'affectation des sommes sur la zone anglophone et la zone francophone, elle est d'abord liée à la question de la langue, elle est liée aussi à des questions d'influence géopolitique, elle est aussi liée au fait que ce modèle d'intervention des Américains, pour faire simple, des fondations américaines, est peut-être beaucoup plus adaptable ou beaucoup plus facilement pénétrable sur des territoires qui sont finalement dans la zone d'influence ou de la sphère d'influence des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, les colonies britanniques ont été principalement les bénéficiaires de cette aide. Ce qui peut aussi expliquer que la décolonisation dans ces pays s'est faite de façon moins douloureuse que dans la zone francophone. Puis c'est la masse financière en jeu. C'est-à-dire que la coopération française est importante, mais c'est une coopération d'État à État. Donc les modèles, les choix sont probablement des choix d'ordre et des gouvernances d'ordre politique et administratif. Alors que là, l'intervention, elle est d'ordre typiquement philanthropique, entrepreneurial, voire même d'exigence en termes de modèle économique entrepreneurial. C'est-à-dire que je vous donne de l'argent, je veux un retour sur investissement et je veux des mesures d'impact et des comptes rendus. Peut-être que dans une coopération de type étatique, ça part dans le tonneau de Danaïde, quoi. Donc c'est aussi peut-être ça la raison, peut-être aussi avoir le sentiment d'un territoire décolonisé, beaucoup moins en capacité de recevoir cette aide et d'être assuré que mon aide sera utile et j'aurai un retour sur investissement qui me sera satisfaisant. Est-ce que cette intervention massive de longue durée a-t-elle servi? Je pense que, immanquablement, il y a eu des effets positifs. Alors ensuite, l'impact, il va être mesuré en termes peut-être de métriques, qui sont les métriques que mettent en place, en fait, ou les grilles que mettent en place ces fondations. Est-ce que c'est le nombre de publications? Et en anglais, le fait que ce soit en anglais, c'est pour eux très important. Est-ce que c'est le nombre de doctorants, de post-docs, de chercheurs qui sortent de ces universités? Et après, la question, la mesure, c'est comment ces sociétés sont impactées positivement par cet effort? Bah, moi, je regarde, 80 ans ou 20 ou 100 ans d'évolution de l'Afrique. Il s'est passé tellement de choses, des guerres, des colonisations, des conflits, etc. On peut avoir le sentiment qu'il y a eu un impact, mais peut-être pas l'impact qui était attendu, parce que tous ces talents, toutes ces compétences qui ont été créées, elles ne sont peut-être pas restées dans leur pays, elles sont peut-être venues irriguer la recherche et peut-être le développement encore plus rapide et plus puissant de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Donc, et probablement que ce n'était pas ça l'objet. L'objet, c'est que ces gens développent leur propre contrée. Sauf que quand vous avez au Kenya, en Afrique du Sud, notamment l'Afrique du Sud qui était sous l'apartheid tellement longtemps, peut-être que des élites ont quitté ces pays pour les rejoindre des pays occidentaux où leurs compétences ont été au profit de ces organisations, enfin au profit de ces pays et pas de leur pays natal, quoi. Donc on peut vraiment débattre de ça. Je pense d'ailleurs dans le livre, c'est dit un peu en filigrane. La question elle est sous-jacente en disant c'est quoi l'impact de tout ça? Il est positif, mais à quel point est-il positif? Et positif pour qui? Quand on parle de devoir d'ingérence positive, comparé au devoir d'ingérence qu'avait lancé, mis en place Kouchner, le devoir d'ingérence dont on parle génériquement, c'est un pays est en train de massacrer, enfin un État est en train de massacrer sa population, il est de la responsabilité de la collectivité de l'ONU ou de l'ensemble des pays, on va dire, à société démocratique, d'intervenir pour aider ces populations en souffrance. Ça a été fait pour les Kurdes après la guerre d'Irak, puis ça a été fait à quelques reprises, malencontreusement, en Libye récemment, et peut-être dans d'autres pays qui sont actuellement à feu et à sang. Ce devoir d'ingérence, dans le cas philanthropique, c'est vous n'êtes pas en capacité de lutter contre tel fléau, la rougeole, l'Ebola, le paludisme, enfin tout un tas de fléaux, même peut-être sociaux. Nous, fondation, qui avons les moyens et peut-être des méthodes différentes des onusiens, des ONG, bien qu'on va utiliser les ONG pour faire, on va intervenir de façon, on va dire, objective, ou de façon, pas objective, mais avec notre propre grille d'analyse, pour vous proposer des solutions. Alors c'est George Soros qui va financer des programmes de country building dans des pays qui ont des problèmes de vie démocratique, de vie d'enseignement libre, etc. Et donc ces gens vont intervenir. On va prendre la Hongrie, puisque pour lui c'est un pays important. Quelle est la réponse aujourd'hui d'un État, enfin d'un pouvoir élu démocratiquement en Hongrie? C'est de dire, mais monsieur Soros, vous intervenez à quel titre? Ben, j'interviens au titre de ma fondation, mais c'est une ingérence. Elle est positive du point de vue de celui qui intervient, mais du point de vue d'un, on va dire, d'un gouvernement d'opposition à sa philosophie, il dit, ben nous, votre ingérence positive, on n'en veut pas. Donc même à ce niveau-là, on a des débats. L'ingérence géopolitique, on a vu les effets, même si elle est souhaitable dans un certain nombre de cas, mais après, il faut assurer le service après-vente. Dans le cas de la philanthropie, c'est sans doute aussi positif, mais on a le problème du récipiendaire qui accepte ou qui n'accepte pas cette proposition. On s'entend souvent sur le fait que d'un côté, le système anglophone est plutôt beaucoup plus messianique que le système français ou francophone, qui consiste à dire « j'interviens pour changer le monde ». Et mon intervention ne consiste pas à financer un projet, mais il consiste en fait à financer une vision du monde et une façon de bouger les lignes quasiment de tout un système. Le système francophone prend des problématiques qu'il adresse pour les corriger. Je ne sais pas, il faut envoyer des sacs de riz, enfin, ou envoyer des chirurgiens pour faire des interventions ou pour sauver des enfants dans des camps de réfugiés, etc., avec un processus qui est « je travaille sur la conséquence de ce marasme ou de ce sujet, après à charge pour les gens de prendre en charge leur propre destinée ». Donc il y a un côté peut-être un tout petit peu plus impérialiste, et c'est assez logique parce que l'Empire est quand même aujourd'hui, le centre de l'Empire est aujourd'hui aux États-Unis, et un côté peut-être beaucoup plus collaboratif, on pourra en discuter, même si certains ne sont pas... avec un modèle beaucoup plus pratico-pratique, avec un côté beaucoup plus philosophique, en termes de... Moi, je distinguerais de cette façon. Donc, du coup, avec la puissance de feu de la philanthropie américaine, on a des volontés d'impact et de changement de société qui sont phénoménaux. C'est un comparatif qui n'est peut-être pas aussi... enfin, peut-être pas bon escient, mais je vous donner l'exemple du plan Marshall. Lorsque les Américains mettent en place le plan Marshall en Europe, c'est « je vous donne de l'argent pour m'acheter mes produits et ça vous permettra de rembourser votre dette ». Et à la limite, si vous ne remboursez pas la dette, ce n'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est que vous fassiez tourner notre économie. Mais qu'est-ce qu'ont demandé les Américains à la signature du plan Marshall? Notamment, les premiers qui l'ont signé, ce sont les Grecs. C'est « et nous voulons que nos films et nos séries télévisions soient diffusées dans vos cinémas et dans vos télévisions ». Et là, il y avait une volonté à la fois d'aider sur un problème matériel, et en fait, on vous injecte aussi du culturel, avec l'idée que, par la culture, vous allez vous sortir du sous-développement et devenir comme nous. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais je crois que dans la philanthropie américaine, il y a un peu de ça aussi, un peu comme dans le plan Marshall, quoi. Il y a un soft power qui est beaucoup plus affirmé que dans le système francophone. Ils se disent très respectueux, mais regardez, ça marche tellement mal votre truc, on va le faire d'une autre façon, vous allez voir, ça va être beaucoup plus efficace. C'est un peu ça le donneur de leçons, va agir de cette façon. Si on prend par tête de pipe, c'est un pays qui est moyen en Europe. En Europe continentale, c'est un pays moyen, il est entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il n'est même pas comparable à la Grande-Bretagne, même taille de population, même richesse. Et les Britanniques donnent quasiment deux fois plus que les Français. Le système de prélèvements sociaux, d'impôts n'est pas le même. Les Français considèrent que l'État incarne la nation et c'est lui qui doit porter l'intérêt général par la redistribution et par l'impôt. Donc ça, c'est un modèle qui est presque comment dire, culturel et aussi politique. Les Anglo-Américains, surtout les Américains, considèrent que l'État doit intervenir quand la société civile n'a pas fait le job. C'est une hypocrisie fantastique, hein, parce que beaucoup d'activités de la société civile, à la fois de l'économie et du secteur associatif, ne peuvent exister que parce que l'État américain injecte énormément d'argent, notamment par l'armement auprès de pas mal d'industries américaines. Mais néanmoins, on est quand même dans une logique où je commence par faire par moi-même, et si je n'y arrive pas, je demande à l'État de m'aider. Et puis, comme je peux autoriser des enrichissements phénoménaux et des possibilités de donner sans réserve héréditaire, qu'est-ce qui empêche un philanthrope de mener son propre projet de société à la place de l'État? Ce que fait Bloomberg sur les opioïdes, 1,4 milliard, c'est quasiment un financement fédéral, quoi. On est dans des niveaux de cet ordre-là. Donc c'est vraiment un choix de société différent et donc des capacités financières différentes pour les fondations par rapport aux structures fondations américaines, par rapport aux structures françaises. Donc la collecte aux États-Unis, c'est 410 milliards de dollars, donc dont un tiers pour les religions, pour toutes les églises. 410 milliards, un tiers pour les églises. En France, on est à 7,5 milliards d'euros donnés à toutes les causes, dont à peine 250 millions pour les églises. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ce n'est pas le même monde, quoi. Je pense que la zone anglophone sera de toute façon dans un mimétisme américain. Et on le voit d'ailleurs, quelques grandes fortunes, quelques grands tycoons de ces zones, au Nigeria notamment. Je ne me rappelle plus du milliardaire nigérian qui a donné une partie de sa fortune dans le Giving Pledge et dans le mimétisme américain. Dans la partie francophone, on a beaucoup moins d'expression de philanthropie de grand mania, comme on le connaît. D'ailleurs, comme on l'a faiblement aussi en France. Hein. Et donc, du coup, je pense qu'on sera peut-être dans une philanthropie plus européenne, je ne dirais même pas francophone, plus européenne, donc de moindre capacité. Et les grands manias, de toute façon, africains, voudront faire comme Bill Gates. Et on le verra d'ailleurs, qu'il soit français ou enfin francophone ou anglophone, c'est la copie qu'on retrouvera. Moi, j'étais en Chine il y a quelques temps, et en fait, quand on regarde les grands milliardaires chinois, leur modèle, c'est les États-Unis. Et Jack Ma fait comme Bill Gates. Donc, ils sont dans ce. D'ailleurs, le centre de philanthropie chinois a été créé avec Bill Gates. Et donc, en fait, ils sont en pleine copycat de ce que font les Américains. Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette nouvelle forme d'enseignement, mais le seul problème, c'est que les dominants du système du numérique, c'est quand même, encore une fois, les Américains. Et ça va être les Chinois. C'est-à-dire que le big data, la puissance des systèmes digitaux sont Américains et Chinois. Donc peut-être que ça sera peut-être un modèle chinois et américain, et qui finalement converge vers un système anglo-américano-chinois. Et là aussi, ça sera un enseignement qui va se faire essentiellement en anglais. Et donc les francophones vont s'y plier. Je ne vois pas une puissance monter. Alors si, les Jacques Attali ou autres vont dire qu'il y a vraiment une puissance francophone qui peut se lever. C'est vrai que c'est la deuxième langue parlée après l'anglais, d'après ce que je comprends. Mais il va falloir faire beaucoup d'efforts de recherche et d'upgrade de notre prestation dans ce domaine pour submerger les universités américaines. Enfin, regardez, Harvard a une dotation de 30 milliards. Ils reçoivent régulièrement des dons de 250, 300, 400 millions de dollars. Je ne vois pas comment nos propres universités vont pouvoir suivre. Et ce n'est pas les États qui vont faire le job. Donc je pense qu'on est un peu déjà déclassés quand même.